France Inter.
Maestro, générique. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le temps des As. Il y a 105 ans, jour pour jour, le 11 novembre 1918, les cloches de l'armistice sonnaient sur un charnier. Ce jour-là, la Première Guerre mondiale se termine après avoir emporté 9 millions de vies, après avoir blessé, mutilé, lacéré 21 millions d'existences. Au cours de chacune des 1560 journées de guerre, 900 jeunes Français mouraient. Bien sûr, 14-18, c'est la boucherie des tranchées, les armes de destruction massive employées pour la première fois, la disparition de tout code de chevalerie. Cette guerre-là, matrice de la violence du XXe siècle, est une guerre d'extermination, la première du genre. Mais 14-18, c'est aussi la première utilisation militaire de l'aviation, qui n'a que 11 ans en 1914, depuis le premier vol des frères Wright, qui avait parcouru 37 mètres en 12 secondes. Quand la guerre débute, il y a en France 500 pilotes brevetés, ils seront 17 000 à la fin du conflit. Dans ce récit, vous allez entendre les voix de ces pionniers de l'aviation de guerre. Elles sont diffusées ici pour la première fois. Ces archives sonores n'ont évidemment pas été enregistrées il y a 100 ans, mais il y a 50 ans, par le service historique de la Défense. Ce sont donc de vieux messieurs qui parlent d'une époque où ils étaient jeunes et intrépides. Sans fausse honte, ils racontent les peurs, les pertes, les mauvais jours, et sans fausse modestie, les succès, le courage, la fierté. Ils racontent comment ils étaient des hommes et comment ils étaient des as. Notre invité aujourd'hui, Jean-Christophe Noël, ancien pilote de chasse et rédacteur en chef de la revue Vortex, une publication spécialisée dans la guerre aérienne. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée aujourd'hui en direct et en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Récit documentaire et rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation et mise en scène, Frédéric Milano. Musique sur scène, Marina Chiche au violon et Jean-Frédéric Neuburger au piano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il est 8h en ce matin du 5 octobre 1914. Il fait beau. Un biplace voisin LA3 décolle du terrain de Léry à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Reims. À bord, le sergent Joseph Franz et derrière lui le caporal Louis Queneau. Aux commandes, Franz doit mener l'avion au-dessus des lignes allemandes. Queneau, lui, doit récupérer à ses pieds 6 obus de 75 et les jeter par-dessus la carlingue après avoir sommairement visé. L'appareil est également équipé d'une mitrailleuse Hotchkiss, qui a la fâcheuse manie de s'enrayer quand elle tire en rafale. Queneau, c'est aussi son rôle, ne peut donc tirer qu'au coup par coup. Soudain, à 2100 mètres d'altitude, l'équipage français aperçoit légèrement plus bas, là, un Hagetic, un biplace allemand qui revient sans doute d'une mission de reconnaissance. La suite, c'est Joseph Franz lui-même qui la raconte.
La première chose que j'ai faite, c'était de couper la route. Alors j'ai pris très à droite. Je suis arrivé à peu près pile en piquant un peu pour prendre de la vitesse. Je suis arrivé à peu près pile contre lui. Tout était là. Tout était là. Il a cherché à faire des virages à droite et à gauche pour se dégager, forcément. Mais moi je le suivais. Une chance de coup par coup. Nous n'avons enrayé qu'à la 47e balle. D'un seul coup, il s'est cabré. S'est mis sur le dos et est descendu rectiligne avec la fumée. J'ai pensé tout de suite que pourvu qu'ils soient morts, tous les deux.
Oui, pourvu qu'ils soient morts, pour qu'ils ne souffrent pas dans leur appareil en flammes, qu'ils n'aient pas à penser au sol qu'ils vont percuter. Dans l'enregistrement, on sent la voix de l'aviateur français s'étrangler un peu à l'évocation du sort de ces deux Allemands, Wilhelm Schlitzing et Fritz von Sangenhagen. Pour la première fois de l'histoire donc, ce 5 octobre 1914, il y a combat aérien, avec un équipage vainqueur et un équipage vaincu. La Première Guerre mondiale, elle, a 2 mois et 1 jour. C'est en effet le 4 août que le journal Le Matin, 1 million d'exemplaires, affichant une « L'Allemagne déclare la guerre à la France ». À gauche, un éditorial titré « La guerre sainte de la civilisation contre la barbarie ». Puis, plus loin, l'agression germanique se déroule selon une logique implacable. Chaque jour apporte à l'Allemagne un déshonneur en attendant les jours qui lui apporteront la défaite. Ces jours-là, on ne le sait pas encore, sont bien loin. De l'eau va passer sous les ponts pendant 4 ans, couleur rouge, couleur sang. Quand la guerre débute, la France aligne 23 escadrilles de 6 avions. Personne des deux côtés du Rhin n'imagine encore l'essor à venir de l'armée aérienne. Les appareils du début de cette guerre sont lents, peu fiables, fragiles, plafonnant vite et ne volant pas longtemps. Par exemple, le Blériot 11, qui équipe 8 escadrilles en août 1914, est à peu près le même que celui avec lequel son concepteur, Louis Blériot, a traversé la Manche en 1909, 5 ans plus tôt. Sa structure est en frêne, en bois donc. Son moteur de 50 chevaux est poussif et il a une fâcheuse tendance à n'en faire qu'à sa tête au roulage. Alors, pour dompter la bête, les apprentis pilotes passent par plusieurs terrains-écoles, Arvor, Dijon, Chartres, Pau, Cazaux. On y apprend le décollage, le tir ou la voltige, dans des conditions un peu rugueuses, comme l'explique Pierre Cazeneuve de Pradine, 7 victoires au compteur.
On finirait le pilotage en commençant par faire du rouleur. Le rouleur, c'était des avions auxquels on avait coupé les ailes, les 2/3 de la longueur, à peu près des ailes. Ils n'avaient plus que des petits moignons, comme des manchots, si vous voulez. Et il fallait s'asseoir dedans, rouler sur la piste et devant une grande ligne droite, et essayer de suivre cette ligne droite. Eh oui. Mais seulement, voilà. Il fallait que l'avion veuille bien en faire autant. Et généralement, il ne voulait pas. Dès qu'on mettait les gaz, eh bien, il se mettait en cheval de bois. Alors, c'était désespérant, c'était horrible comme travail, parce qu'on roulait sur une mauvaise piste, avec des petits pneus très minces, le châssis tubulaire de la machine qui flanquait des coups à droite, des coups à gauche, on se battait.
Pierre Cazeneuve de Pradine a 20 ans quand il s'engage en 1914. Pas dans l'avion directement, non. À l'époque, on ne peut pas, de toute façon, l'armée de l'air n'existe pas. Cazeneuve est donc envoyé sur le front avec son régiment de dragons. Et comme tous les cavaliers de la guerre, il s'ennuie. Ce fils d'aristocrate nantais rêvait de hauts faits d'armes, de panache, d'actes de bravoure. Le voilà désœuvré, à garder les tranchées de seconde ligne. Ils seront nombreux dans la cavalerie à changer de monture pour aller chercher la gloire qu'une guerre de position leur refuse. Et puis après tout, dans la cavalerie comme dans l'aviation, on monte. Et un cheval ou un avion, ça se cabre. Donc, question vocabulaire, le jeune Cazeneuve n'est pas dépaysé. Et puis, après tout, l'aviation, c'est moderne, c'est dynamique, c'est pur, ça fait rêver. En tout cas, plus que les gerbes de boue et de sang que soulèvent les obus d'artillerie.
Ça, il faut reconnaître que même autour de moi, dans mon régiment, on parlait de l'aviation, mais c'était encore quelque chose qui paraissait assez extraordinaire, assez invraisemblable et assez peu utilisable. Il faut penser qu'en 1915, il n'y avait pas d'action aérienne de chasse. Le bombardement, je crois, commençait d'une façon très sommaire. C'était plutôt la reconnaissance qui avait commencé déjà un peu à rendre des services utiles. Mais tout ça n'était pas encore très organisé. Mais enfin, j'étais de cette génération qui a vu naître l'aviation. Alors, j'ai envisagé que c'était une façon passionnante de faire la guerre. Et d'autant plus passionnante que je la voyais, beaucoup de mes amis, sous un jour un peu particulier. C'était la guerre individuelle, ce n'est pas encore la guerre de masse, alors que c'était déjà la guerre de masse dans les autres armes.
Au début de la guerre, donc, les équipages font essentiellement de l'observation. Et si la photographie aérienne n'est pas encore tout à fait au point, si les essais de TSF embarqués ne sont pas concluants, les pilotes et les observateurs qui survolent le front ont de bons yeux. Car enfin, il faut imaginer la réalité de la situation en ce début de septembre 1914. Les Français battent en retraite devant les 60 divisions allemandes et ce sont 1 200 000 soldats qui descendent vers Paris depuis la Belgique et le Luxembourg. Leur poussée paraît inexorable. Le 3 septembre, Des avions français de retour de patrouille transmettent leurs observations à un officier dont le nom résonne encore aujourd'hui, Alfred Dreyfus. Réhabilité 8 ans plus tôt après avoir été injustement condamné et déporté en Guyane, c'est donc lui, Dreyfus, qui accompagne les aviateurs au grand quartier général pour y porter la nouvelle. Une partie des troupes ennemies a infléchi son mouvement. Le commandant en chef des opérations, le général Joffre, qui n'est pas encore maréchal, écrit « Il convient de profiter de la situation aventurée de la première armée allemande pour concentrer sur elle les efforts des armées alliées. » Et de fait, la contre-attaque française va bloquer l'avancée des soldats du Kaiser et repousser le spectre d'une défaite qui paraissait courue d'avance. La suite, elle est écrite dans les manuels scolaires. C'est l'épisode des fameux taxis de la Marne, qui transportent rapidement quelques milliers de soldats sur les lieux de la bataille. Bien sûr, leur apport n'est que symbolique. Bien sûr, soulignent les historiens, l'énorme mouvement de l'armée allemande aurait fini par être remarqué, même sans avion. Mais en ce tout début de Première Guerre mondiale, deux inventions récentes, l'avion et l'auto, entrent pour la première fois dans un conflit. Le 10 novembre 1914, Joffre rédige une nouvelle note pour ses officiers. L'aviation, leur dit-il, n'est pas seulement un instrument de reconnaissance. Elle s'est rendue sinon indispensable, du moins extrêmement utile pour le réglage des tirs d'artillerie. Et elle a le devoir de pourchasser et de détruire les avions ennemis. En quelques mots, Joffre fixe ainsi aux aviateurs des objectifs bien plus larges que ceux prévus quelques mois auparavant. Et les journaux ne s'y trompent pas. Cette bête curieuse qu'est le pilote de guerre apparaît alors dans les pages des quotidiens et des revues. Ainsi, l'illustration publie-t-elle, accompagnée d'un article tout en superlatif, une grande photo de France et Queneau, les deux vainqueurs du premier combat aérien. D'ailleurs, tout au long du conflit, la presse donnera beaucoup de place aux aviateurs dans ses colonnes. Logique. Au sol, c'est la boue, le sang, les cris des blessés, la guerre de masse, la tuerie de masse. En l'air, en revanche, les combats sont individuels. C'est presque comme si on revenait au temps de la chevalerie et des tournois. Et plutôt que la fange, le public préfère l'éther. Les aviateurs sont donc traités en héros, comme s'en souvient Jean Fraissinet, 8 victoires à son actif.
Pendant l'opération, nous étions adulés par les embusqués et surtout par les citoyennes. Et puis quand on était près de Paris, que le temps était bouché, et puis quand on avait descendu un avion homologué, on avait généralement une permission pour aller profiter de l'indulgence que manifestaient les jolies femmes.
Qui était réelle.
Très réelle.
Jean Fraissinet a 20 ans en 1914 quand il s'engage dans les hussards. Un cavalier donc. Ce fils de grand bourgeois marseillais rejoint l'escadrille 57, basée à Lens sur la route de Verdun. L'escadrille, c'est une piste sommaire et des baraques à Drian, des préfabriqués en bois, aisément démontables et transportables, et peu coûteux. Elles servent de popotes, de chambrées, de messes, de bars, d'ateliers ou de bureaux, bref, un hameau qu'on déplace, accueillant 60 à 80 pilotes, mécaniciens, comptables, ouvriers. La vie en escadrille, c'est voler, enchaîner les patrouilles et les missions d'une heure et demie quand il fait beau, ce qu'elle calfeutrer aux messes quand il pleut ou que le plafond nuageux est trop bas pour voler. La vie en escadrille, c'est être dans le confort et au chaud, quand les poilus, eux, sentent la pluie glacée imbiber leur vareuse. C'est être éloigné du front, des obus dont les éclats déchirent les chairs. C'est manger à sa faim, quand les soldats, eux, ont le ventre vide. En bas, ils tombent. Il tombe dans une atmosphère d'apocalypse. C'est comme si d'un côté, il y avait les nobles, les aristos, protégés, et de l'autre, les gueux, la chair à canon. Alors, les aviateurs, y compris les as, ne sont pas toujours bien vus des fantassins, se souvient Jean Fraissinet.
Je n'ai jamais oublié qu'un jour de beau temps, nous étions couchés au soleil sur nos lits picots devant nos baraques à Drian. Passe un régiment d'infanterie, couvert de boue et de sang, et les hommes commencent à nous insulter. Alors, ça pue, il y avait une 20aine de victoires à l'époque, je le vois encore en pyjama, s'avançant vers le colonel, Et 10 ans, nous nous faisons insulter par vos hommes. Si vous voulez désigner un volontaire, je vais l'emmener sur les lignes et il verra le métier que nous sommes. Il revient 1 heure après avec son appareil troué de balles. Et à ce moment-là, le régiment qui avait droit à une halle nous a acclamés.
Les temps sont héroïques et chevaleresques, panache en bandoulière. Ici, c'est un bouquet de fleurs que l'on jette depuis son avion pour honorer la mort d'un ennemi descendu, as de cœur. Là, c'est en pleine guerre, une sorte de parade dont se souvient Jacques Roch, 8 victoires à son palmarès.
Tous les soirs, vers 18h, au-dessus de Berry-Vaubach, il y avait 2 Allemands. Alors, de temps en temps, on y allait, on faisait des passes, jamais personne n'a tiré un coup de mitrailleuse, et puis au bout d'un certain temps, on se faisait signe et chacun rentrait chez soi.
Si on vous demandait qu'est-ce que ça vous a amené, la chasse ?
Ça m'a apporté de la poésie, de l'indépendance, de la persévérance.
Pourquoi de la poésie ?
Parce que le ciel, c'est tellement beau. Parce que votre avion, vous pouvez faire une sorte de ballet avec les nuages. D'ailleurs, les nuages, dans les flancs, ils étaient bienvenus. Parce que quand il y avait trop d'Allemands, on allait dedans.
Mais ce romantisme aviateur va bientôt disparaître. Rattrapé par la réalité de la guerre, l'aviation va devenir une arme de masse. Les pilotes ne chasseront plus en solitaire, mais en meute. Et les morts des camarades abattus vont se multiplier. Le changement sera brutal. Verdun, du 21 février jusqu'au 18 décembre 1916, les dates de la mer des batailles, comme on l'appelle, sont inscrites à l'encre rouge dans les livres d'histoire. Et en milliers de corps ensevelis autour de cette ville de la Meuse, 300 000 Français et Allemands y sont morts sous le feu roulant des canons, sous un déluge d'artillerie. Et cette bataille, au bout du compte, n'a même pas été stratégique. En revanche, Verdun change tout dans l'utilisation de l'armée aviatrice, pour reprendre l'expression d'alors. L'aviation n'est plus un sport guerrier, mais un combat de masse. Ce sont les Allemands qui le comprennent le plus vite. Pour préparer l'offensive de Verdun, ils concentrent 280 appareils. Les Français en alignent péniblement 70, autrement dit 4 fois moins. Les avions allemands sont également supérieurs en technologie. Leurs mitrailleuses synchronisées, fixées à l'avant, peuvent tirer à travers l'hélice. Entre le 17 mars et le 28 avril 1916, l'escadrille des Cigognes voit la moitié de ses pilotes aller au tapis. As de trèfle. Au sein de l'escadrille Lafayette, composée de pilotes américains, l'espérance de vie au combat est de 3 semaines. Et rares sont les appareils à rentrer indemnes. La chasse allemande est supérieure. Et la DCA, inexistante 2 ans plus tôt, se souvient Pierre Cazeneuve de Pradines, contribue à décimer les pilotes français.
C'est ce qui est arrivé à mon camarade, dont l'avion a été coupé en deux, il a eu les reins emportés. Et l'avion coupé en deux, tombé en 2 tronçons sur les lignes. Eh bien, j'ai demandé au commandant de l'escadrille de l'autorisation d'aller avec une voiture chercher le corps de mon camarade. Et je suis parti vers les tranchées. Ils ont eu beaucoup de peine à arriver parce que c'était en pagaille. Ils n'ont fini par trouver le corps que des fantassins avaient mis dans un petit abri. Et puis, avec un brancard, nous l'avons rapporté sous un bombardement dans un village où nous avions laissé la voiture. Et nous l'avons rapporté comme ça pour l'enterrer l'escadrille. Nous avons eu pas mal de deuil. Il y a une époque où nous passions notre temps à aller au cimetière.
On imagine mal la violence des combats aériens. Vu du sol, on voit des arabesques. On entend peu le bruit des mitrailleuses qui tirent. On n'entend pas les impacts. On n'entend rien des cris des hommes touchés. Non. On voit juste, depuis les tranchées, des appareils décrochés et tombés comme une masse de plomb. On voit juste des avions, de la fumée, sans imaginer les flammes qui rongent l'aviateur prisonnier de sa carlingue. Mais vu du ciel, c'est une autre image qui vous bouleverse et qui vous poursuit des dizaines d'années après. Une image qui n'a jamais lâché Louis Chartoire, as aux 5 victoires.
J'ai eu un combat très très dur avec un Allemand qui était un excellent manœuvrier, et à un certain moment dans le combat, j'étais si près de lui que j'ai vu les yeux de l'homme quand il s'est retourné pour me regarder. À quelques mètres. On garde des souvenirs, vous savez, des souvenirs merveilleux à la fois et pénibles, parce qu'on tirait sur des gars qu'on ne connaissait pas, mais enfin, c'était des ennemis.
L'arithmétique, même en temps de guerre, ne ment pas. En 1915, 273 aviateurs meurent. C'est presque 10 fois plus en 1918. La supériorité allemande est manifeste et les gestes de courage français écrivent la chronique d'une aviation qui résiste malgré tout. Ainsi, dans la revue Les Chemins de la Mémoire, une historienne écrit « Le caporal Valla a été vu crispé sur ses mitrailleuses, continuant à tirer au milieu des flammes qui l'environnaient. » Ou encore, le caporal Mestre s'est dressé dans sa carlingue, la carlingue de l'avion embrasée. Et il a adressé à ses camarades un signe de la main avant de se jeter dans le vide. Un signe d'adieu et de libre acceptation d'une mort glorieuse. Et puis il y a toujours ce fichu matériel, ces boussoles que les aviateurs s'empressent de démonter parce qu'elles ne fonctionnent jamais et qu'elles vous perdent plus qu'elles ne vous renseignent. Ou encore, se souvient Alfred Hortot, ces maudites mitrailleuses qui s'enrayent.
Tous nos ennuis à cette époque-là sont arrivés des enrayages de mitrailleuses. Ça, c'était notre terreur. Alors, l'ennui, c'est qu'à 30 mètres, quand votre mitrailleuse s'enrayait, on avait tiré 1 ou 2 coups. Si on n'avait pas descendu sur ces 2 coups-là, à ce moment-là, c'est lui qui risquait de vous descendre. Il fallait se dégager. J'ai vu comme ça un combat au-dessus de Nancy. Je crois que j'ai eu 6 mains dans l'appareil. Elles m'ont enlevé mes bougies intérieures, mon carburateur, ma commande de gaz, hein, m'ont coupé le palanier gauche sous le pied, m'ont crevé mon réservoir d'essence. Vous savez, les combats, c'est très peu de choses, quant à moi. Les types qu'on descend, ce sont les choses les plus faciles. Celles qui sont difficiles, ce sont les gars qu'on descend pas.
Hurtaud termine la guerre vivant, avec 21 ennemis abattus. Il est le 12e des 184 as français. Le premier, c'est René Fonck, 75 victoires. Le deuxième, Georges Guimer, 53. C'est d'ailleurs avec lui que cette reconnaissance des as est venue. Avant le 16 février 1916, l'état-major ne communiquait pas les noms des pilotes qui avaient au moins 5 appareils allemands à leur tableau de chasse. C'était interdit par le règlement. Après cette date, le nom des héros est désormais publié au communiqué des grands quartiers généraux. Et à partir de cet instant, La presse française relaie avec ardeur les noms et les faits des aviateurs les plus virtuoses, les plus méritants d'entre eux. Guilmer et Funk deviennent ainsi des vedettes. Et chacun a sa propre légende. Funk est excellent pilote et n'a jamais été touché par un seul tir allemand. Guilmer, lui, pilote médiocre mais téméraire à l'excès, a survécu 7 fois après avoir été abattu. Les deux hommes étaient tellement différents, se rappelle Louis Chartoir.
Entre Guilmer et Funk, il y avait une différence totale. Guilmer était un homme qui cherchait le combat, qui se battait, qui prenait des balles dans son appareil et qui n'hésitait pas à engager le combat en toutes circonstances. Il ne tirait pas très bien, mais il était extrêmement courageux. Funk était un tireur d'élite qui avait par surcroît une vue extraordinaire. Il voyait l'adversaire avant que l'adversaire ne le voie. Quelques cartouches et descendaient l'adversaire. Et s'il ne descendait pas tout de suite, il rompait le combat. En pensant, si je ne t'ai pas eu ce coup-là, je t'aurai la prochaine fois. Voilà. Enfin, il a préservé sa vie. Il a eu quand même 75 victoires officielles contre 53 Guilmer.
La figure des As exalte le patriotisme. Et ce n'est que bien plus tard, en 2011, en étudiant la personnalité des 40 premiers Français, que l'ex-officier historien militaire Michel Goya remarque et écrit dans un magazine militaire « Leur violence froide et dénuée de remords saute aux yeux ». Il cite Funk, qui dans ses mémoires donne des numéros aux hommes qu'il a tués et qui poursuit. « J'atteignis l'homme en pleine poitrine, et dans sa chute son avion se rompit. Ah, c'était là du beau travail ». Il cite Guilmer, le premier Fokker a piqué sans me voir, résultat, 35 balles au bout portant, et quick. Voilà aussi ce qu'on peut lire, et qu'on peut dire des As. 15 jeunes trop chétifs pour être acceptés au début de la guerre, Guilmer, ou qu'un apprenti mécanicien, Funk, sont devenus, au fur et à mesure, des combats, des machines à tuer. Funk survit à la guerre, mais pas Guilmer, abattu le 11 septembre 1917 au-dessus d'une plaine des Flandres belges. Une belle mort, estime Jacques Leps. 12 victoires, oui, une mort glorieuse.
Quand il est tombé, on a su que c'était Guilmer, n'est-ce pas, tout de suite. Ça a fait, dans quelques secondes, tout le front a été prévenu que Guilmer était mort. Et alors les Anglais ont su ça, et très sportivement, ils ont dit, nous allons reprendre le terrain où est tombé Guilmer exactement. Il a fait un bombardement formidable. Et un peu ridicule d'ailleurs. Et c'est ce bombardement anglais qui a volatilisé l'avion de Guilmer et le corps de Guilmer, ce qui fait qu'on n'a rien retrouvé. Volatilisé, je veux dire. Rien, on n'a rien retrouvé.
Jacques Leps a aussi en tête la mort d'un autre cador. C'est même l'as des as de la Première Guerre mondiale. Il vole pour l'autre camp. Totalise 80 victoires. Il s'appelle Manfred von Richthofen. Son surnom, le Baron Rouge. Il est la tout maître de l'aviation allemande. Au début de sa carrière militaire, il peint son avion en rouge pour des raisons tactiques. Un appareil visible pour attirer l'ennemi, un appât, pendant que le reste de l'escadrille, volant plus haut, fond sur les adversaires tombés dans le piège. Plus tard, Richthofen fait peindre tous les appareils de son escadrille en rouge. En Allemagne, il est alors une légende. D'autant que leur plus grand pilote est un bon fils qui écrit 3 fois par semaine à sa mère et un homme courageux, même face à ses supérieurs. Ceux-ci veulent lui interdire les missions par peur que sa possible mort ait un effet dévastateur sur le moral des troupes du Kaiser. Le baron refuse, s'entête et meurt le 21 avril 1918. Jacques Leps était dans les airs ce jour-là.
Moi j'étais donc au cours de la bataille, au cours de laquelle Richthofen a été tué. Mais c'était une bataille à méli-mélo, n'est-ce pas, d'avions canadiens, des triplans rouges de Richthofen. Alors comment a-t-il été tué exactement? On sait bien. Il était dans la bataille, il a, pour une raison X, il a été obligé d'atterrir, ou il a un ennui de moteur, ou je ne sais pas quoi, ou je ne peux pas dire. Et des Australiens qui étaient au sol ont tiré sur cet avion qui avait des croix noires, qui était le triplan de Richthofen. Et l'avis général, enfin, des enquêteurs, c'est qu'il a été grièvement blessé, oui, et même tué, par les Australiens qui étaient au sol. Donc, il a pas. Ce n'est pas glorieux.
Richthofen est enterré le lendemain de sa mort avec les honneurs militaires rendus par les Australiens. vivant. Le Baron Rouge était l'ennemi redouté. Mort, il est l'adversaire à respecter, auquel on rend hommage avec la même dévotion que s'il avait été un aviateur allié. Drôle de guerre, décidément. Mais la supériorité aérienne allemande va s'estomper à partir de l'été 1916, alors que la production d'appareils et de moteurs français, elle, bondit. Le système de tir synchronisé à travers l'hélice est adopté, ou plutôt récupéré, et copié d'après un avion allemand abattu. Et puis, les appareils eux-mêmes sont plus performants. Les Allemands avaient les Fokker, les Français ont désormais les Spad et les Anglais les Sopwith Camel. Bataille de la Somme en 1916, Chemin des Dames en 1917, l'aviation accompagne les grandes batailles au prix de lourdes pertes, d'un côté comme de l'autre. Au cours de la deuxième moitié du mois d'avril, 17 avions français sont abattus, 72 du côté allemand. Rappelons-nous la phrase de Pierre Cazeneuve de Pradines, entendue il y a quelques minutes. « Nous passions notre temps au cimetière. » Et il n'y a pas que les morts au combat que les vivants pleurent. Il y a les morts par accident, oui. Et elles sont nombreuses. Elles représentent 60% des aviateurs. La faute au matériel, parfois. Au mauvais terrain d'atterrissage, souvent. Mais dans un tiers des cas, affirme à l'époque l'as Henri Edelslade, c'est la faute du pilote. Inexpérience ou fantaisie, comme on disait alors.
Alors, en revenant de combat, vous savez, quand j'avais descendu à Bosch, je faisais ce qu'on appelle des acrobaties au-dessus du terrain. J'ai volé très bas, très très bas, et mes roues sont accrochées dans les herbes qui étaient un peu plus hautes. Alors là, ça a été épouvantable comme choc. Mais à ce moment, l'avion a été démoli. Moi-même, j'ai été propulsé loin de mon avion et je suis resté sur la terre, ne pouvant dire ni une parole ni faire un geste. Les mécaniciens, tous les camarades du SAI, ils sont précipités avec un brancard pour me ramener. Tout le monde sur mon passage, ça je le voyais, se découvrait absolument comme si j'étais mort.
Après 8 jours de permission, Slade remonte dans son spa des retours de combat. Il finit la guerre avec 19 victoires. Mais 37 des 184 pilotes français n'entendront pas sonner les cloches de l'armistice. Les noms des morts résonnent encore aujourd'hui. Roland Garros ou Guinemer. Les noms des survivants tout autant. Charles Dingesser, qui se tue 10 ans plus tard en tentant la traversée Paris-New York. Ou encore le cinéaste Henri Decoing. Ou le journaliste et romancier Joseph Kessel. Joseph Kessel. Lui a une histoire particulière. À la fin de la guerre, le 11 novembre 1918, il embarque au Havre parce qu'il a accepté une mission en Sibérie, à Vladivostok. Le navire fait d'abord une halte à New York, où il débarque en vainqueur. Il écrit « L'accueil qui nous attendait à l'ombre des gratte-ciel nous laissa tous sans force, sans parole. Je pense qu'il est impensable d'imaginer aujourd'hui ce que représentait pour les Américains ces premiers échelons de la victoire qui étaient français, c'est-à-dire les messagers de la Barne, de la Champagne, de Verdun, et qui étaient aviateurs, c'est-à-dire les représentants d'une espèce encore si peu connue qu'elle semblait fabuleuse. Et on nous traita en demi-dieux. Des demi-dieux qui, des dizaines d'années après ce 11 novembre 1918, sont assaillis par des émotions contraires. Ainsi, Jacques Lepps, qui ne peut terminer ses phrases, voix étranglée, et Gilbert Sardier, 14 victoires, et plus jeune chef d'escadrille de la guerre, 21 ans, tellement marqué par cette joie surhumaine dont parle Kessel.
Alors là, je vais vous raconter, mais je l'ai écrit en quelques lignes. Le 11 novembre 18, un planton s'est précipité, alors que dans mon monoplace Spad, hélice en marche, j'allais décoller en tête de mon escadrille et il me dit « L'armistice est signé ».
Quand nous avons appris l'armistice, nous avons pris une voiture légère et nous sommes allés à Paris car nous étions à ce moment-là dans la Marne. Je dois vous dire que je n'ai jamais vu une foule aussi enthousiaste. C'était formidable et on nous a un peu reconnus, médailles comportées. Vraiment reçu un accueil plus que chaleureux. plus que chaleureux. On nous a traînés même sur une scène de théâtre, tout ça. Et la nuit fut très chaude.
Les années de guerre ont tout changé pour l'armée de l'air. Techniquement, déjà. À la fin du conflit, écrit l'historien Damien Coulon dans La Nouvelle Histoire de l'Armée de l'Air, les appareils volent 2 fois plus vite, 3 fois plus loin, 5 fois plus haut, au moyen de moteurs 4 fois plus puissants. Humainement, ensuite, les pionniers de l'aviation de guerre incarnent une nouvelle race de guerriers, les solitaires. Avant eux, l'engagement était celui d'une troupe, d'un régiment. Avec eux, le combat devient un duel, l'affrontement d'un homme contre un autre, comme si le temps est suspendu, comme si plus rien n'existait autour d'eux, non. Plus rien d'autre que la silhouette si proche d'un ennemi que l'on doit abattre si on ne veut pas être abattu. Ces hommes ont connu le pire de l'humanité et parfois le meilleur. Ils ont éprouvé la tristesse comme la joie, la peur comme le courage, la honte comme la fierté. Être le pionnier d'une épopée guerrière n'est pas chose facile. Même si quelquefois, comme le raconte Jacques Roch, les petites histoires de la grande histoire prêtent à sourire.
Une fois, en septembre 1915, je suis rentré, et puis je me suis présenté au baccalauréat, première partie, que l'on m'a donnée parce qu'on s'est dit, ce pauvre garçon, il va se faire tuer, on ne peut pas lui refuser son bachot. C'est tout comme en revenant de la guerre, j'ai passé ma seconde partie, où on m'a dit, ben, il revient de la guerre, il faut lui faire ce cadeau. Thank you.
Jean-Félix Mesurier, au piano.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui donc, le temps des As. Notre invité Jean-Christophe Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien pilote de l'armée de l'air sur Mirage, F1, CR et sur Jaguar. Et vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef d'une revue spécialisée dans la guerre aérienne dont le nom est Vortex.
Tout à fait.
Alors d'abord, une question qui concerne les archives elles-mêmes. Comment l'armée de l'air en est arrivée dans les années 70 à réaliser ces sessions d'enregistrement avec les As qu'on a entendues?
Ben en fait, c'est une initiative d'un général, le général Christian, qui à l'époque est à la tête du service historique de l'armée de l'air. Il va faire un voyage aux États-Unis, qui à l'époque est très avancé dans les techniques pour recueillir du renseignement, pour recueillir différentes informations, pour savoir comment les opérations se sont passées. Et il revient avec cette idée que finalement, ben, peut-être qu'on pourrait intégrer, justement, dans tous les témoignages, des témoignages oraux. Et donc aller chercher des témoignages d'anciens qui ont participé à des opérations.
Il se trouve que l'armée de l'air avait été dépouillée de ses archives, c'est pour reconstruire une mémoire?
Alors entre autres, oui, parce qu'il va faire d'une pierre deux coups, en effet. En 1940, la France est envahie, et les Allemands arrivent vers Paris, et donc on décide d'évacuer les archives. Simplement, les camions qui contiennent ces archives sont arrêtés sur la Loire. Et ces archives vont disparaître. Alors, on ne sait pas si elles ont été détruites, on sait qu'une partie d'entre elles sont prises par les Allemands et emmenées à Berlin. Berlin va être aussi détruit. On sait qu'une toute petite partie d'entre elles vont être prises par les soviétiques. En tout cas, au moment de la guerre froide, elles sont dispersées. On a beaucoup de mal à construire cette mémoire.
Et donc on l'a, là, on l'a avec les mots et les voix. C'est fascinant. Alors, une question plus personnelle. Vous avez été pilote de chasse vous-même. Est-ce que les enseignements des As sont des enseignements pour vous? Ou alors, est-ce que c'est complètement dépassé?
Alors, est-ce qu'un As de 1914 peut être une source d'inspiration pour un pilote aujourd'hui? Bon, déjà, de manière évidente, la guerre aujourd'hui n'est plus celle de 1914. À l'époque, effectivement, on combat avec des mitrailleuses, on combat sur des avions dont les structures sont en bois, recouvertes de tuiles, de toiles, pardon, excusez-moi, recouvertes de toiles, alors qu'aujourd'hui, évidemment, la technologie est beaucoup plus avancée. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui restent constantes. Voilà, par exemple, si vous prenez un petit peu d'un point de vue plus personnel, bah, ce sont des gens qui doivent arriver, par exemple, à bien gérer l'énergie. Imaginez que le combat aérien, vous êtes dans une boîte avec plein de mobiles qui se déplacent et il faut toujours savoir où vous êtes par rapport aux autres mobiles. Oui. Et donc, il faut avoir une espèce de conscience de la situation. Les Américains parlent de situation awareness qui est très importante. Très, très importante. Donc ça, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui.
Le fait d'avoir des yeux partout.
Exactement. En tout cas, de savoir, on sait qu'à ce moment-là, les avions étaient de ce côté-là. Je sais que, par exemple, je vais avoir une fenêtre d'opportunité. Mmh. Alors, si je suis un as, si je suis un pilote, justement, est-ce que je vais prendre le risque ou pas? Ça, c'est quelque chose aussi qui va être déterminant. Donc, il faut de l'agressivité, peut-être pour aller un peu, comment dire, oui, aller justement chercher le destin, un petit peu le provoquer. Et puis, en même temps, savoir que, voilà, j'ai cette fenêtre d'opportunité de temps en temps, et après, je devrais aller à nouveau, mais replonger un petit peu dans tout cet univers, dans toute cette boîte, et savoir où sont ces mobiles.
Alors, les pilotes fascinaient le public. Qu'est-ce qui fait que le public était fasciné par ces gens-là, plus que par les autres, alors qu'ils avaient quand même quelques avantages au début? Après, ça devenait vraiment très dur, hein. Mais au début, il valait mieux peut-être être pilote que fantassin dans l'horreur de cette guerre de 14-18.
Ah, vous savez, on a des images. Par exemple, vous prenez la Deuxième Guerre mondiale. La population qui a été le plus, par exemple, décimée chez les militaires américains, ce sont les membres des équipages des bombardiers. Ce ne sont pas les Marines, ce ne sont pas les JAIS, non, ce sont les membres des équipages de bombardiers.
À cause de la défense contre avion, la DCA?
Tout à fait, entre autres, ou même la chasse allemande. Donc voilà, c'est une guerre qui est très, très, très meurtrière. D'ailleurs, je crois qu'un des témoins le disait, c'est si vous voulez changer nos places, il n'y a pas de problème. Alors certes, il y a quelques avantages de confort, etc., mais il faut savoir qu'un fantassin est en ligne, il ne va pas monter tous les jours au combat. Il ne va pas franchir tous les jours le parapet de la tranchée pour aller justement du côté allemand. Là, on décolle tous les jours. Et on va finalement chez l'adversaire, on va tenter de...
Plusieurs fois par jour?
Ça dépend, oui, plusieurs fois. Justement, vous parliez de Guynemer. Guynemer est très connu, il vole beaucoup plus que les autres, et il est vraiment très agressif, et il va aller chercher ses victoires. Et donc, il va les provoquer. Ce qui explique notamment tous ses succès au début de la guerre, et pourquoi c'est un des meilleurs as jusqu'à sa mort.
Alors, côté allemand, puisqu'on parle des héros, il y a ce fameux Baron Rouge. Est-ce que Hermann Göring, qui était à la tête de l'aviation la Luftwaffe, ce qui était un pilote de la guerre 14-18 et un pilote très connu.
Oui, c'est un pilote qui est connu, effectivement. En fait, il va remplacer, justement, quand Richthofen décède, etc. C'est un des pilotes qui va accéder à certaines responsabilités. Donc, c'est un pilote qui va connaître la guerre dans les airs. Et pour l'anecdote, il va être sauvé. C'est un des rares pilotes, enfin, c'est un des pilotes allemands qui va être sauvé grâce à son parachute. C'est-à-dire, les parachutes, en fait, sont mis en place par les Allemands, on va dire, au milieu du premier semestre 1918. Puis par les Britanniques en septembre 1918. Alors on hésite pour les parachutes. Déjà l'état-major hésite parce qu'on se dit, ils se disent bon, peut-être qu'ils vont l'utiliser de manière un peu intempestive. Donc bah, qu'ils restent dans l'avion et puis ça sera bien mieux qu'ils aillent au bout de leur destin. Et puis bon, finalement, on s'aperçoit que si on peut récupérer ces pilotes qui coûtent cher, c'est quand même une bonne idée. Le problème, c'est qu'un parachute, c'est 15 kilos. Donc c'est déjà une masse dans l'avion, avec une propulsion qui est faible. Donc si vous perdez un petit peu de ça prend de la place. Vous êtes inconfortable, et qui plus est, ça ne marche pas toujours. Je crois que sur les 70 premiers pilotes allemands justement, qui utilisent ce parachute, il y en a un tiers qui meurt, parce que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas un moyen de survie absolu. Néanmoins, c'est quelque chose donc, qui est utilisé, et Oudet, et notamment et Göring plus tard, vont pouvoir survivre grâce à ce parachute.
Avant d'évoquer la stratégie militaire et l'emploi de l'aviation, j'espère qu'on aura le temps, je voudrais vous faire écouter une archive. C'est l'extrait d'une interview de Joseph Kessel. Alors, le journaliste et écrivain s'est engagé en 1916 dans l'aviation. Il n'était pas pilote, hein. Il est observateur mitrailleur. Il est invité en avril 1973 dans l'émission à livre ouvert de l'ORTF. Et le présentateur lui dit « Vous avez vécu des temps héroïques ». Bon, on aurait tous dit ça d'ailleurs. Voici sa réponse.
Pour aujourd'hui, 1916, 17, 18, c'est des temps héroïques. Mais on vit avec son temps. Alors les temps héroïques étaient ceux des premiers vols, des premiers combats où les chasseurs avaient une carabine et tiraient avant qu'on ait inventé le tir à travers l'hélice. Et alors moi déjà, nous sentions très fiers, nous avions fait du 180 à l'heure à tout casser, mais c'était du 180 à l'heure, c'est-à-dire ce que n'importe quelle bagnole un peu honnête fait maintenant.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les pilotes de cette époque, parce que déjà, c'était des pionniers.
À la carabine, vous vous rendez compte ?
Oui, non, mais je crois qu'il faut aller au musée de l'air, par exemple, au Bourget, pour voir tous ces avions. Et là, on est vraiment impressionné. Qu'est-ce que c'est ? C'est un moteur, c'est pas un moteur de tondeuse, mais enfin voilà, c'est un moteur de hors-bord. Encore une fois, c'est de la toile, c'est du tissu. Il faut imaginer les gens qui montent en altitude, donc le froid. Donc le manque d'oxygène, etc. Il faut imaginer que vous êtes en combat, donc c'est un petit peu comme en Formule 1, vous avez besoin d'exploiter votre avion vraiment aux limites, pour être le plus performant possible. Et les structures de ces avions sont très faibles. Donc voilà, quand vous voyez ça, vous pouvez, même si c'est un siècle, enfin, vous êtes en admiration devant. Et effectivement, enfin, Kessel a raison. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a peu d'avions finalement. Donc je veux dire, voilà, vous avez quelques carnassiers en vol qui se rencontrent de temps en temps, et ça donne des combats. Mais plus on va avancer dans la guerre, plus cette guerre, même aérienne, va devenir industrielle. Industriel. Et à partir de ce moment, finalement, il va y avoir de plus en plus d'avions dans les cieux et la forme du combat aérien va complètement changer.
Est-ce que c'est Verdun qui marque un tournant entre les deux époques ?
Oui, tout à fait. Verdun et plus tard la bataille de la Somme dans la même année sont vraiment essentielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bon, tout le monde connaît la bataille de Verdun. On voit que les Allemands ont mis beaucoup de moyens pour l'emporter et ils ont une idée, c'est notamment d'avoir la supériorité dans le ciel pour empêcher les Français, finalement, d'être au balcon et puis de regarder ce qui se passe. Photographier, puis rapporter des images qui pourraient servir notamment pour l'artillerie. Donc ils mettent un maximum de moyens. Les Français, pour agir, sont obligés de mettre aussi énormément de moyens pour les chasser. Et donc on a une première bataille aérienne, c'est vraiment une des premières batailles aériennes de l'histoire, qui est un marqueur et qui annonce en fait la fin justement de cette Première Guerre mondiale.
Et le côté structuré des actes de guerre aériens, je parle des escadrilles, ça vient aussi de la Première Guerre ?
Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez un escadron de l'armée de l'air. Ces traditions de l'escadron datent plutôt de la Deuxième Guerre mondiale, alors que ces escadrons sont constitués d'escadrilles qui datent plutôt de la Première Guerre mondiale. Donc en fait, quand vous êtes jeune pilote, que vous arrivez, alors dans un premier temps, vous êtes entre le papier peint et le mur, parce que vous rasez un petit peu, on va dire, les différentes salles. Vous arrivez dans une meute de différents carnassiers, donc vous essayez de survivre. Et voilà, bon, avec le temps, quand vous avez une certaine légitimité, vous vous intéressez effectivement à toute cette histoire. Et là, souvent, vous découvrez des merveilles. Et des choses qui sont inspirantes aussi.
Alors, on dit que les Allemands avaient une supériorité aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on n'a pas oublié non plus que la bataille d'Angleterre, ce sont les Anglais qui l'ont gagnée avec leur Spitfire.
Tout à fait, oui.
On n'oublie pas que Göring a eu beaucoup de problèmes parce qu'il essuyait défaite sur défaite et que Hitler a commencé à se détourner de lui, ce qui l'a rendu fou vu son ego et qu'il voulait prendre la succession. Finalement, l'aviation allemande, elle est un peu mythifiée.
L'aviation allemande rentre dans la Deuxième Guerre mondiale déjà avec de l'expérience. Ces pilotes sont aguerris, ils ont fait la guerre d'Espagne. Donc ils ont trois ans parfois de pratique, donc ce sont des gens qui ont un petit avantage par rapport à leurs adversaires. Effectivement, en fait, l'aviation allemande a un problème, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais capable d'être efficace, on va dire, dans la profondeur du champ de bataille. Si vous voulez, par exemple, on n'arrive pas à casser les usines britanniques. Sur le front soviétique, on ne va jamais détruire tout le complexe industriel des soviétiques. Donc on a une aviation qui est plutôt capable d'agir sur le champ de bataille, mais en aucunement en profondeur. Et ça, les anglo-saxons, eux, l'ont compris. Et ça, quelque chose qui va être décisif, notamment dans les bombardements du sud de l'Allemagne. Alors, il va y avoir des errements, notamment avec le bombardement autour des villes, où on va chercher les civils, etc. Mais on va aussi détruire le complexe industriel allemand. Et ça, ça va être décisif pour l'issue de la guerre.
Qu'est-ce qui vous a ému? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans tout ce que vous avez entendu pendant ce récit, en termes d'archives que vous connaissez, hein? Mais est-ce qu'il y en a eu une ou deux qui... vraiment votre... préférence, quelque part.
J'aime beaucoup celle d'Horto. Alors, non pas parce qu'il dit, mais parce qu'il dit pas, en fait. C'est assez intéressant. Horto, donc, pour resituer, c'est un camarade de Guynemer. D'ailleurs, ce sont vraiment deux camarades. Et quand on lit, quand on écoute leurs archives, c'est intéressant parce que vous avez le commandant d'escadrille, hein, qui s'appelait Brocard. Et on voit les deux qui, à un moment, disent, on imagine, donc, le camp d'escadrille régnait sur ces, évidemment, dessous. Et les deux qui l'envoient balader à un moment en disant, écoutez, c'est bon, hein, si on n'était pas là, qu'est-ce que tu deviendrais, etc. Donc, on voit déjà que les rapports dans cette aviation, la légitimité, au moins aussi importante, on va dire, que la hiérarchie. Et Horto dit, en fait, il dit rien. C'est ça qui est dommage, qui est assez frustrant. Mais en même temps, ça dit beaucoup de choses de ses rapports avec d'autres pilotes, et notamment Guynemer. Vous avez notamment un des intervieweurs, donc une première fois, va le voir, et s'attend donc à ce que Horto nous décrive qui est Guynemer, etc. Et puis que ça fasse, finalement, que ça soit dans le, ça reste dans l'histoire, cette description. Il dit, non, mais vous savez, Guynemer, on a déjà tout dit. Et on sent qu'il veut garder avec lui, finalement, ses souvenirs. Et les intervieweurs, on peut pas en arrêter là, ils vont revenir une deuxième fois, mais Horto va à nouveau les rejeter. Et je trouve ça, finalement, assez émouvant, parce qu'il y a toujours cette part de mystère. Et puis, finalement, on voit que c'était des hommes qui étaient très camarades et qui avaient des relations très, très proches.
Bien, merci.
Je vous remercie beaucoup.
Merci infiniment pour... vos éclairages et aussi votre expérience. Je rappelle que vous avez été pilote de chasse. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le Temps des As. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Et merci à toute l'équipe technique du studio 104, dirigée par Cédric Chatelus, avec Nicolas Deparaf à la sono, Cédric Després et Léon Jacquier à l'éclairage, François Bory et Camille Garin à la vidéo. Merci à tous. Merci à suivre, bien sûr, sur France Inter Zoom Zoom Zen pour le best-of du samedi. We'll be right back.